France Europe, l'émission européenne des radios Judaïca, elle est réalisée avec l'Europe Direct de Strasbourg. Bonjour à toutes et à tous, je suis ravi de vous retrouver pour cette émission européenne coproduite et diffusée par Radio Judaïca Strasbourg et RCF Alsace. Cette émission est réalisée avec le soutien du Centre Europe Direct de Strasbourg. Près d'un an après l'apparition du coronavirus en Chine, l'épidémie est devenue mondiale et l'Europe est aujourd'hui à nouveau durement touchée par une deuxième vague. On dénombre près de 270 000 Européens qui sont décédés du Covid-19 selon les derniers rapports de l'OCDE sur la santé. Cette crise sanitaire a mis en lumière les vulnérabilités et les défaillances des États européens, mais aussi aura aussi questionné sur le rôle de l'Union européenne pour y faire face. Aujourd'hui, quelles leçons l'Union européenne a-t-elle tirées de cette crise et quelles perspectives existent-ils pour une Europe de la santé? Pour répondre à ces questions, nous avons le plaisir d'avoir au téléphone Madame Nathalie Collin-Osterlée, députée européenne française et qui a notamment présenté avant cet été un rapport sur les pénuries de médicaments en Europe, pénurie également révélée au public du fait de cette crise sanitaire. Bonjour Madame Collin-Osterlée.
Bonjour.
Merci d'avoir accepté cette invitation. Alors avant de débuter cette interview et afin de mieux vous connaître, je vous propose d'écouter votre portrait réalisé par Caroline Laforgue du Centre Europe Direct de Strasbourg et qui vous posera également la première question de cette interview.
Madame Collin-Osterlée, bonjour. Vous êtes originaire du Var, département dans lequel vous grandissez et où votre père est alors député. À ses côtés naît très tôt votre intérêt pour la politique et la chose publique. Pour vos études supérieures, vous vous installez à Paris et sortez diplômée de l'université Panthéon-Assas en 1993 avec deux DESS, aujourd'hui Master 2, l'un en droit notarial et l'autre en droit de l'immobilier. Vous êtes notaire de profession. Puis vous vous installez à Metz, ville dont votre mari est originaire. Vous vous engagez rapidement dans la politique locale en étant élue conseillère municipale de la ville de Metz. En 2010, vous poursuivez votre carrière politique au sein du Conseil régional de Lorraine. Puis, en 2015, vous êtes élue conseillère départementale de Moselle et en devenez la vice-présidente. Vous abandonnerez ce mandat après votre élection au Parlement européen, mais afin de garder un ancrage local et un lien avec votre ville, vous êtes élue aux côtés du nouveau maire de Metz, François Grosdidier. Vous êtes élue députée européenne sur la liste LR Les Centristes, emmenée par François-Xavier Bellamy, et êtes membre du groupe du Parti populaire européen, le PPE. Depuis, vous avez intégré la commission Environnement, Santé publique et Sécurité alimentaire. Et à peine une année plus tard, en pleine crise sanitaire, vous êtes l'auteur d'un rapport parlementaire sur la pénurie des médicaments en Europe, un sujet pleinement d'actualité et sur lequel nous ne manquerons pas de vous interroger au cours de cette émission. Nathalie Collin-Osterlée, vous êtes donc élue pour la première fois au Parlement européen. Ce nouveau mandat vous amène à travailler avec des collègues de 27 nationalités différentes et de familles politiques transnationales. Que pensez-vous de ce décor que vous découvrez en pleine crise sanitaire? Et quel premier bilan faites-vous alors que vous venez de soumettre votre premier rapport sur la pénurie de médicaments en Europe?
Oui, eh bien, écoutez, effectivement, j'ai été élue en mai dernier. Donc, j'ai fait mes premiers pas au Parlement en juillet 2019. Pardon, donc, c'était bien en 2019. Et très vite, je me suis intéressée aux questions de santé publique sans imaginer que ce serait évidemment d'une actualité cruciale, puisque nous n'étions pas encore en période de crise sanitaire. Alors, ce que je pense aujourd'hui de la manière dont tout cela fonctionne, je pense que nous avons vraiment besoin de davantage d'harmonisation, de coopération et de coordination entre les États membres, notamment, mais ça n'est pas le seul, sur le sujet de la santé publique. Et évidemment, la pandémie a mis en évidence ce manque de coordination et de coopération. Donc, c'est pour cela aujourd'hui que nous nous battons, et moi la première, pour une Europe de la santé, pour davantage d'intégration européenne, puisque vous savez que la santé est d'abord de compétence nationale, mais qu'il appartient à l'Union européenne de coordonner, de coopérer, de compléter les actions nationales pour permettre une meilleure protection des citoyens européens, une meilleure santé, de meilleures politiques en matière de santé publique.
Mais c'était ma première question venait là, c'était finalement, est-ce qu'il y a une véritable politique, une véritable Europe de la santé? Est-ce qu'elle existe vraiment aujourd'hui?
Alors, c'était une compétence d'appui hein, jusqu'à maintenant, puisque c'est ce que je vous disais, la santé est de compétence nationale. Et lorsque l'on parle de vulnérabilité des systèmes de santé et d'insuffisance de coordination, c'est d'abord les insuffisances au niveau de chaque État membre, hein, puisque c'est vraiment aujourd'hui une compétence nationale. Mais la pandémie a montré que nous avions besoin de davantage de coordination, davantage d'Europe pour résister à ces crises et pour harmoniser nos systèmes de santé autant que faire se peut. Mais c'est cela aujourd'hui que les citoyens demandent, je crois, c'est vraiment plus d'Europe pour davantage de protection des citoyens européens.
Mais j'en viens à votre rapport. En 1990, l'Europe produisait 90% des médicaments consommés sur le continent. Aujourd'hui, c'est la Chine et l'Inde qui fournissent 80% des matières premières utilisées pour les médicaments des Européens. C'est ce que vous constatez dans votre rapport sur la pénurie des médicaments. Comment expliquez-vous cette situation, déjà, comment on en est arrivé là, et que proposez-vous dans votre rapport pour y remédier ?
Alors, vous avez raison, les pénuries de médicaments ne sont pas nouvelles, mais évidemment, la crise sanitaire a mis en évidence ce problème qui est grave pour la santé. Et les anticancéreux, les vaccins ou encore les médicaments du système nerveux, à eux trois, représentent plus de la moitié de ces pénuries. Alors, vous disiez, une des causes, c'est effectivement la délocalisation de la production. Ça n'est pas la seule, mais c'est une des causes principales. 80% des matières premières sont produites en Asie et également 40% des médicaments finis sont produits hors Union européenne. Alors, ce que nous, dans ce rapport dont je suis l'auteur et qui a été voté à une très très large majorité, donc tout groupe politique confondu, nous faisons des propositions très concrètes. Tout d'abord, la création de ce qu'on appelle une pharmacie européenne d'urgence, c'est-à-dire un stock, si vous voulez, de médicaments essentiels et de vaccins qui sont touchés par ces pénuries. Le renforcement du rôle de l'Agence européenne du médicament pour réguler les stocks dans les États membres, puisqu'on s'est rendu compte, si vous voulez, pendant la crise, que certains États membres surstockaient certains médicaments. C'est un réflexe légitime, hein, surtout en période de crise, mais pendant que d'autres États membres étaient concernés par des pénuries extrêmement graves. Donc, pour davantage de solidarité, effectivement, renforcer le rôle de l'Agence européenne du médicament en lien avec les agences nationales pour permettre de réguler tout ça et également pour avoir une meilleure régulation de la chaîne du médicament. Nous avons également proposé de faire de la sécurité de l'approvisionnement un critère aussi prioritaire que le prix dans les appels d'offres, et puis la création d'un ou plusieurs établissements pharmaceutiques à but non lucratif pour produire ce que les industriels ne produisent plus par manque de rentabilité, mais qui demeurent des médicaments essentiels dans la vie de tous les jours, et bien sûr la relocalisation de certaines productions de médicaments au sein de l'Union européenne afin d'assurer une véritable souveraineté par des incitations fiscales et financières pour garder des prix abordables, parce que ça aussi c'est un vrai sujet.
C'est ce qu'on verra aussi avec la proposition de la Commission européenne qui a été faite sur ce sujet-là et qui a donc repris en grande partie votre rapport. Il y a eu la course aux masques, la course au matériel médical, la course aux tests. Est-ce que l'on assiste désormais à une course au vaccin ? On peut aussi constater que pour la grippe H1N1, les pays avaient fait du chacun pour soi. Qu'est-ce qui a changé depuis cette crise sanitaire de 2005 ?
Ce qui a changé, c'est que nous sommes en train de construire l'Europe de la santé. Et justement, par rapport à ce sujet, le sujet des vaccins, la crise démontre à quel point nous sommes plus forts ensemble. La Commission européenne a conclu avec 6 grands industriels des contrats d'achat anticipés de vaccins anti-Covid-19, dont le fameux vaccin développé par l'entreprise Pfizer, qui devrait être le premier distribué avec celui qui est produit par Moderna. Mais au total, tout laboratoire confondu, c'est près de 2 milliards de doses qui ont été pré-réservées pour les citoyens européens. Alors, un État membre seul ne peut pas assurer cet approvisionnement. Et c'est là où on voit que la souveraineté nationale en matière de santé, elle ne veut pas dire grand-chose. Ce qui compte, c'est l'Europe. L'Europe a montré à quel point elle était puissante dans ses contrats de pré-réservation, de pré-achat. Et puis, il y a aussi le sujet de la stratégie vaccinale qui doit être européenne, qui pose plusieurs questions. Tout d'abord, qui doit être vacciné? Alors, en France, le gouvernement a déjà dévoilé sa stratégie, mais moi, je souhaite que cette stratégie soit coordonnée au niveau européen. Et puis ensuite, une campagne extrêmement importante, européenne là aussi, pour instaurer une véritable confiance vis-à-vis de ce vaccin. Il faut quand même rappeler que l'Europe assure les normes les plus élevées en matière de sécurité sanitaire et qu'il faut continuer à travailler sur la transparence et la bonne information pour vraiment instaurer cette confiance. C'est vraiment le mot-clé pour obtenir un taux de vaccination suffisamment élevé et parvenir à l'immunité collective que nous souhaitons tous le plus rapidement possible. Et puis également pour cette Europe de la santé, je rappelle quand même que nous sommes tombés d'accord pour avoir un budget santé pour les 6 prochaines années qui sera plus de 10 fois supérieur à ce qu'il était entre 2014 et 2020. Les chefs d'État européens s'étaient tous entendus en juillet dernier pour sabrer le budget santé, alors même que nous sortions à peine de la première vague. Et là, le Parlement a pesé de tout son poids dans les négociations budgétaires pour obtenir un budget de 5 milliards d'euros pour les 6 prochaines années, et je répète, plus de 10 fois supérieur à ce qu'il était entre 2014 et 2020 pour mettre en place des stratégies européennes en matière de santé dont nous avons vraiment besoin.
On reviendra aussi sur ce plan de relance. J'aimerais encore vous interroger là-dessus. Il y a une question que je me posais. On parlait de la question de la dépendance par rapport à l'Asie, la Chine et l'Inde notamment. Est-ce que par rapport au vaccin, il n'y a pas ce risque de dépendance par rapport aux produits nécessaires à la fabrication des vaccins ou elle ne se pose pas?
Écoutez, là, aujourd'hui, ça n'est pas tellement le sujet. Aujourd'hui, l'urgence, c'est d'instaurer la confiance et de sortir de cette pandémie qui a des répercussions épouvantables en matière économique et sociale. Il faut se poser les bonnes questions. Aujourd'hui, il faut se poser la question, encore une fois, d'avoir une stratégie européenne et d'avoir une couverture de vaccination suffisamment importante pour parvenir à l'immunité collective. Sinon, bientôt, on aura plus de morts des conséquences économiques et sociales que de la pandémie elle-même. Donc il faut travailler sur les bons sujets et surtout ne pas entrer dans des polémiques inutiles.
Alors, vous nous avez déjà parlé un peu de la stratégie vaccinale. Qui sera les premiers servis? Aujourd'hui, on entend qu'au Royaume-Uni, Pfizer commencera à distribuer ses vaccins très rapidement, encore peut-être avant janvier. J'ai encore lu que les Belges parlaient du 5 janvier. Est-ce que il y a déjà une stratégie? Est-ce que c'est les États? Comment ça va s'organiser finalement?
Mais justement, c'est là-dessus que travaille la Commission aujourd'hui pour que la stratégie vaccinale soit européenne. On a vu en France, effectivement, moi je préconise que ce soit d'abord les personnes âgées, les personnes les plus vulnérables qui soient concernées par la vaccination, les professionnels de santé dans le même temps, et puis ensuite une vaccination beaucoup plus large et davantage grand public. Mais aujourd'hui, il faut d'abord que cette vaccination concerne les personnes qui sont touchées prioritairement.
On a vu que c'était une stratégie donc vaccinale avec des achats de vaccins pour tous les États membres. On a aussi vu que la Hongrie allait utiliser le vaccin russe, était déjà même déjà en train de le tester. Est-ce que il y a vraiment une solidarité complète ou c'est il y a que l'exception de la Hongrie qui se pose?
On a actuellement d'autres problèmes avec la Hongrie, ça ne nous aura pas échappé. Donc effectivement que la Hongrie ait recours à un vaccin autre, ça pose quelques questions parce qu'il ne faudrait pas que cette manière de faire se généralise. Mais vous l'aurez remarqué, nous avons d'autres soucis aujourd'hui avec la Hongrie qui effectivement a mis un veto pour le plan de relance européen. Je rappelle que le plan de relance européen, c'est 750 milliards d'euros et c'est 40 milliards d'euros pour la France. Voilà, c'est pas un petit sujet. Donc, je crois qu'avec la Hongrie, nous avons vraiment des sujets extrêmement importants à aborder et à régler, notamment pour la validation du prochain budget européen sur les 6 prochaines années, le cadre financier pluriannuel et le plan de relance qui ne peut pas être débloqué aujourd'hui en l'état suite au veto de la Hongrie et de la Pologne.
Vous êtes donc membre du PPE, hein, ce qu'on disait, vous êtes élu LR les centristes, vous siégez à côté du parti politique au pouvoir en Hongrie, hein, le Fidesz. On pourrait expliquer peut-être pourquoi ils bloquent. Hein, ils bloquent le budget parce qu'il y a une conditionnalité de l'état de droit, qui a été introduite. Oui. Hein, vous pourrez peut-être l'expliquer à nos auditeurs. Mais finalement, il y a un blocage qui vient de la Hongrie, qui est quand même votre partenaire dans votre groupe politique.
Aujourd'hui, nous avons quelques tensions, comme vous l'aurez noté. Manfred Weber, qui est président de notre groupe, a également eu des mots très durs à l'égard du Fidesz et de la Hongrie. Je pense effectivement que les tensions sont grandes aujourd'hui. Et vous savez, dans un parti comme le PPE, vous avez une ligne, bien sûr, une ligne politique, mais vous avez des délégations, 27 délégations. 27 délégations, ça veut dire aussi des manières de penser très différentes, et c'est d'ailleurs, je pense, dans tous les mouvements politiques, et on n'est pas forcément tous d'accord, et aujourd'hui, je pense que le Fidesz est en situation extrêmement critique vis-à-vis du PPE, de la ligne du PPE.
Madame Colin-Osterlé, je vous propose de faire une petite pause musicale. On va écouter Asaf Avidan, MC Solar, un duo plutôt improbable, autour du titre Lost Horse.
All my body's undulating, back and forth, but it's too late. There's no cure, no sedating. All this pain we're generating, this prolonged, insane, grotesque thing that we wrongly have been naming love. Honey, this ain't love, no.
Asaf, où est le faux, où est le vrai, je ne sais pas, 50-50. Dans la vallée des rois traîne la reine Nefertiti. Son cœur n'a que 20% dans une cagnotte de litchi. Mais le cactus renaît, Oxmo Gucci. Elle est là, elle aime le lila. Et la nature au parfum de l'île, elle est balade à cheval dans le Guatemala. Cela avant l'arrivée d'Attila.
Love. Honey, this ain't love. I want you to hold me. Perpendicularly on me. The sun now follow the gods. We were raining cats and dogs and lightning strikes my heart and sheds some light on to the fact that ain't so frightening how there hasn't been your pretty side in so much time. My teeth are widening from the blood we shed while biting love. Honey, this ain't love.
Dans le mal à la cour, un cheval ailé qui s'est somnolé ici. Dans le Valhalla coule un cheval ailé. Qui c'est sommes-nous nés ici pour échouer? Il est là, il aime le lila. Et la nature au parfum de l'île, les balades à cheval dans le Guatemala. Cela avant l'arrivée d'Attila. Là.
Perpendicularly only, the sun now follow the gods.
la balle et la lave
perpendiculairement.
Qui s'est sommé,
cadran solaire,
c'est Dieu.
Car nous sommes nés
ici pour échouer.
Pour finir cette interview, j'aimerais, Madame Nathalie Collin-Oesterlé, vous poser encore une dernière question sur le programme de santé proposé par la Commission européenne et cette fois-ci doté grâce au Parlement européen d'un budget de plus de 5 milliards d'euros, comme vous le proposez. J'aimerais avoir votre point de vue. Quel est finalement l'objectif et que retenez-vous de ce programme ?
Alors, ce programme, il a plusieurs des forces, tout d'abord de lutter contre les pénuries de médicaments et de matériel médical. L'objectif vraiment, c'est de davantage harmoniser, coordonner, de renforcer la coopération et la solidarité entre les États membres. Donc c'est par exemple de permettre la mobilisation de personnel médical en cas de crise et de renforcer sa formation, c'est de créer un espace numérique des données de santé, c'est de renforcer l'innovation et la recherche pour une nouvelle génération de médicaments. On a aussi le plan européen de lutte contre le cancer, pardon, et puis le renforcement du rôle de l'Agence européenne du médicament, je vous en parlais tout à l'heure, pour davantage réguler là aussi les politiques entre les différents États membres, entre les différentes agences sanitaires nationales, et puis de bien sûr de renforcer la coopération transfrontalière, par exemple en matière de maladies rares et de médicaments orphelins. Bon, et puis on a eu pendant la crise de très beaux exemples là aussi de coopération. Je pense que la région Grand Est pourrait servir d'exemple et de région pilote. Voilà, parce que effectivement, se mettent en place de véritables coopérations transfrontalières entre la région Grand Est, l'Allemagne, le Luxembourg, et c'est un bel exemple de coopération dont, à mon avis, on doit s'inspirer bien au-delà et pour mettre en place une politique solidaire en matière de santé au niveau européen.
Merci, Mme Collin-Oesterlé. Je terminerai juste par des questions courtes, réponses courtes. On appelle ça 4JI comme au Parlement.
J'ai passé la parole dans le cadre de Catch the Eye.
Catch the Eye.
Catch the Eye.
We now move to Catch the Eye.
Catch the Eye.
Quelle est pour vous la plus grande réussite de l'Union européenne ?
Schengen.
Son plus grand échec, alors, s'il y en a un ?
Écoutez, peut-être le plus grand échec, je dirais, peut-être le manque de d'harmonisation et de coopération, c'est ce que nous sommes en train de faire, ce sur quoi nous sommes en train de travailler pour justement assurer une Europe de la santé. C'est vraiment ce qui me tient à cœur aujourd'hui.
Et si vous aviez enfin un conseil, peut-être en ces moments un peu de confinement, de lecture, de musique ou peut-être d'expo après le confinement à découvrir, quelque chose un peu culturel, vous proposeriez quoi ?
Il y a une très belle expo au centre Pompidou Metz. Très belle expo Chagall à découvrir en virtuel.
Merci Madame Collin-Oesterlé pour votre participation à cette émission et nous avoir consacré un peu de temps alors que vous êtes à Bruxelles en travaux dans vos différentes commissions parlementaires.
Au revoir, merci.
Quant à nous, on se retrouve bientôt et avec plaisir pour notre émission européenne. À bientôt.